preuve scientifique qu'il était vraiment là. Les photos, les empreintes, les restes n'intègrent pas tout ça maintenant depuis. L'histoire a évolué, puisqu'il n'y a pas seulement un loup, il y a une loup, mais il y a maintenant des louveteaux. Vous savez aussi, en 2013, on est arrivé au louveteau, il y a une famille, là où on est proche. Bon, cette aventure me plaisait parce que ça me parle à tous. Le loup, pour des questions sociales, et puis chacun des histoires d'enfance, sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez, mais enfin, c'est quelque chose qui nous parle à tous. Il y a quelque chose à faire avec le loup. Il est revenu en 2011, mais pourquoi ne pas le faire revenir, peut-être, fugitivement, en 1921, parce que ça collerait avec les dates de mon enquêteur de Gébelière. C'était une idée, puis c'est partie de ces idées qu'on pose grâce à la bibliothèque, puis on attend qu'elle fermente ou qu'elle en croise une autre. Et l'autre, elle est venue avec cette recherche que j'ai toujours de trouver ou un personnage, ou une page d'histoire d'Alsace, ou quelque chose qui soit peu connu, méconnu, et que, à travers le roman, on puisse le raconter d'une autre façon. Dans 15 jours en rouge, c'était les journées révolutionnaires de novembre 18. Là, je me suis dit, et c'est en passant pas très loin d'ici, le 22 novembre, que l'idée m'est venue, parce que vous avez une plaque, au 12, à gauche, qui dit qu'Antoine de Saint-Exupéry a vécu là, donc d'avril à juillet 1921. Ça, je l'avais lu un jour quelque part, mais je n'avais jamais enquêté pour savoir exactement qu'est-ce qu'il avait fait et ce qui s'était passé. Et puis, j'ai commencé à lire des biographies. En général, le passage à Strasbourg dure 3 lignes. Il a duré 3 mois, c'est 3 lignes dans une bio. Il y en a quelques-unes qui se mettent un peu plus. Et puis, ces 3 lignes reposent sur les mêmes documents. Ben, les mêmes documents, il faut les chercher. Saint-Exupéry a vécu ici, effectivement, de début avril jusqu'à mi-juillet. Il était faisait son service militaire, pour ceux que c'est quelque chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il faisait son service militaire au 2e régiment d'aviation de combat qui était donc au Polygone, qui était à l'époque le seul aérodrome de Strasbourg. Il n'était pas du tout pilote, il était mécano et même aide-mécano, et il rêvait de voler. Et c'est à Strasbourg qu'il a fait quelque chose d'important dans sa vie, parce que les deux actes les plus importants qu'il nous a laissés, c'est qu'il a écrit et qu'il a volé. Il a volé, ça a commencé ici. Puisque c'est ici qu'il a pris des cours, il a pris des cours non pas avec les militaires, mais avec l'accord des militaires, une petite société civile, une petite entreprise qui avait quelques avions, qui s'appelait la Transaérienne de l'Est, et qui partageait l'aéroport et la piste. Et un pilote qui s'appelait Robert Aévy, qui lui a appris à voler. Saint-Exupéry écrivait à sa maman pour lui dire « prends moi de l'argent pour me payer les cours, arrange-toi pour que l'autorité militaire me laisse les horaires pour que je puisse voler ». Il a appris à voler avec Robert Aévy, et le 9 juillet 1921, il a fait son premier vol solo, au départ du Polygone, au-dessus de Strasbourg et dans la zone. Alors voilà, j'avais là quelque chose qui me faisait envie. Et puis, bon, j'ai été voir les documents qui existent. Les documents, c'est 12 lettres. 10 lettres qu'Antoine de Saint-Exupéry a écrit de Strasbourg à sa maman, une lettre à sa sœur et une lettre à un copain. Et puis, ce sont les témoignages des gens qui l'y ont croisé et qu'on a eu l'idée d'entendre, parce qu'on a plein de l'idée d'entendre, notamment Robert Aévy, le pilote, et puis un copain de lui qui s'appelait Jean Lescaut et qui l'a un peu connu à Strasbourg et qui l'a surtout retrouvé plus tard à l'école de sous-officiers à Saint-Avold, si je ne me trompe pas. Et avec ces témoignages et ces lettres, en les regardant, il y a un petit passage qui est extraordinaire. Vous permettez, 3 lignes simplement. Hein. 3 lignes simplement. Ça, c'est en juin 21, on n'a pas la date précise. C'est un texte écrit à sa maman. Je joue vaguement aux échecs à Strasbourg et je bois des bocs. Je tourne aux bourgeois ventrus. L'image est bien perdue. Je vous reviendrai un gros Alsacien. J'ai déjà accent, j'apprends la langue pour vous être agréable. Et quelques paragraphes plus loin, mon partenaire d'échec, devenu idiot suite de la chaleur, garde faute de voir les pièges que je lui tends, cela me vexe. Un partenaire d'échec qui boit des bocs, qui lui apprend l'alsacien, et c'était mon jeu meilleur. C'était évident. Le croisement était fait entre les deux personnages. Ils s'étaient donc rencontrés au vol 9 juillet 1921, que fait Saint-Exupéry tout seul. J'ai rajouté le vol du 14 juillet 1921, où ils sont deux dans l'avion, Jules Meillard derrière, mort de trouille, et ils vont voler au-dessus de la vallée de Mystère, ce qui permettra de faire avancer très sérieusement l'enquête de Jules, auquel pourra contribuer Antoine. Voilà. Ce que je peux rajouter dans les trous que tu as laissés.
Écoute, j'avais laissé des trous béants, je crois. Merci, Jacques. Du coup, ça me permet aussi de vous lancer tous les deux un petit peu sur un... Parce qu'on voit bien dans ce que tu nous as raconté, comment tu as construit ton histoire, comment tu as avancé. Et t'es beaucoup appuyé sur l'histoire, tout court. Et vous êtes tous les deux des écrivains qui s'appuient beaucoup sur l'histoire alsacienne, sur la culture alsacienne, sur sa langue, sur sa... Voilà. C'est pas juste les Alsaciens entre eux qui peuvent les notes, il y a beaucoup de choses. Quelle est la part, pour tous les deux, c'est pas celui des deux qui a envie de démarrer, quelle est la part que vous donnez dans vos romans, voilà, justement, à l'Alsace, à ce... On fait des romans policiers régionaux, quelque part, donc voilà, qui parle de la région, qui est né dans cette région. Est-ce que cette Alsace, son histoire, sa culture, c'est un personnage du roman? Est-ce que c'est le sujet du roman? Est-ce que c'est un petit supplément d'âme? Qu'est-ce que c'est pour vous?
Ben, moi, je suis né dans un petit village de vignobles du Haut-Rhin en 1950. Et j'ai vécu dans l'ambiance de la viticulture, du vin, des vendanges, toute cette ambiance particulière qu'il y a dans le vignoble, quand on est né dans un petit village de vignoble. Et ce qui me frappe, c'est de voir le vignoble tel qu'il est aujourd'hui, le vignoble d'Alsace, la vie autour de la vigne, du vin. Et ce qui me frappe, c'est combien ça a changé, c'est complètement un autre monde. Moi, j'ai assisté à la fin du cheval, c'est-à-dire quand j'étais gamin, avant 1960, les paysans, ils avaient des chevaux. Et puis, d'un coup, sont arrivés les tracteurs, une allure incroyable. Et quand les tracteurs sont arrivés, ça a changé énormément de choses. Je ne sais pas, il y a peut-être des historiens de l'agriculture qui ont travaillé là-dessus. Mais comme les paysans avaient des chevaux, il fallait nourrir les chevaux. Donc, il fallait des prés. Il fallait des prés pour l'herbe, pour le foin. Comme il y avait les prés, l'herbe, le foin, on avait aussi des vaches. Aujourd'hui, il n'y a plus de vaches dans le milieu. Mais moi, quand j'étais gamin, les paysans, ils avaient un ou deux chevaux et des vaches. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous prenez le coin que je connais bien entre Ribeauvillé et Saint-Hippolyte, si vous voyez en gros cette portion de la route du vin, tout ce qui est à l'est de la route du vin, donc entre la route du vin et la RN83, c'était des prés. C'était des prés et c'était pas du tout de la haussée, on plantait pas du tout de vignes là, parce qu'évidemment il fallait du fourrage pour les chevaux et pour les vaches. Et à partir du moment où il n'y avait plus besoin de fourrage pour les vaches et pour les chevaux, eh bien, comme par hasard, comme par miracle, ces zones-là sont devenues des zones d'appellation contrôlée pour le vin d'Alsace. Et du coup, ça a changé tout le paysage de la route du vin. Et ce que je dis là maintenant pour la petite portion que je connais bien, je suis sûr qu'il y aurait des exemples de Tann à Marlenheim où le paysage a été changé du fait de la disparition du cheval. Aujourd'hui, évidemment, si vous avez à partir de 4-5 hectares de vignes dans le vignoble, il faut un 4-4. Alors, il y a différentes zones de 4-4, un petit 4-4, le grand, le mien, il y a évidemment le plus gros 4-4 qu'on puisse imaginer. Donc, ce passage entre le cheval, la vache de mon enfance et les 4-4 du vignoble aujourd'hui, regardez le vignoble, il y a 4-4, il y a 4-4, franchement, c'est un nul. Donc, cette espèce de grande césure, comme ça, culturelle, en l'espace de moins d'un demi-siècle, je trouvais que c'était un sujet très, très intéressant. Et entre-temps, d'ailleurs aussi, les vins d'Alsace, c'est là que Parker a appris aussi, ont pris du galon en termes de reconnaissance nationale et internationale. Autrefois, les vins d'Alsace, quand même, le soufre, on y allait, quoi. Et le Steinmutzer, comme on disait, c'est le sucre qu'on rajoutait, on y allait aussi, quoi. Et Steinmutzer, on disait, quoi. Et je pense qu'en termes d'œnologie aussi, de qualité des vins d'Alsace aussi, les vins d'Alsace ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient à l'époque. D'où mon Oscar Klunk, qui est le Riesling. Il est carrément le roi du Riesling, ça c'est des personnages, 20 hectares, 4-4 sur une mer, etc. Attention, plus rien à voir avec son père et son grand-père, qui élevaient encore des vaches.
Et qui vend son vin à Jet Set.
Jet Set de Stockholm.